Laudetur Jesus Christus.
En fixant des prix élevés et en refusant de partager leurs brevets, les laboratoires qui produisent les vaccins contre la Covid alimentent une crise mondiale. C'est ce que dénonce un rapport de l'ONG Amnesty International publié ce mercredi. Nous entendrons la directrice de l'antenne française. Audience générale du pape François ce matin, comme le veut la tradition. Il est revenu, nous l'entendrons, sur son dernier déplacement en Hongrie et en Slovaquie. Une Europe de la défense est-elle possible? Les derniers remous de l'actualité internationale ont fait ressurgir ce vieux serpent de mer. Nous en parlerons avec l'eurodéputé Arnaud Danjean. Il est spécialiste des questions de défense et de stratégie.
Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
Bonsoir. Les États-Unis promettent une nouvelle fois de lutter contre l'inégalité de l'accès à la vaccination contre la Covid-19. Lors d'un sommet virtuel sur la vaccination ce mercredi, Joe Biden a promis d'acheter et de distribuer 500 millions de doses aux pays en développement. Les États-Unis qui plaident également pour un objectif très ambitieux, 70% de la population de chaque pays vaccinée d'ici un an. Mais au-delà des promesses des différents pays occidentaux, les pays les moins développés ont jusqu'ici très peu accès aux vaccins. En Côte d'Ivoire, par exemple, 1% de la population est vaccinée, 0,6% en Tanzanie comme au Libéria, 0,2% en Haïti ou au Turkménistan. Et les doses promises via le mécanisme COVAX arrivent au goutte à goutte ou n'arrivent pas. Selon un rapport publié ce mercredi par l'ONG Amnesty International, les 6 grands laboratoires, AstraZeneca, BioNTech, Johnson & Johnson, Moderna, Novavax et Pfizer, alimentent ainsi une crise des droits humains sans précédent. C'est ce que nous explique Cécile Coudriou, présidente d'Amnesty International en France.
Tout d'abord, les grandes entreprises, donc les 6 plus importantes, ont privilégié dès le début les pays riches. Elles ont en fait vendu à des prix élevés et donc uniquement aux pays riches. Donc ça, c'est le premier problème qui a créé évidemment une grande disparité dont on voit le résultat aujourd'hui, hein, puisque c'est 55% de la population qui est vaccinée dans les pays les plus riches, alors qu'on n'atteint même pas le 1% dans les pays les plus pauvres, qui sont au nombre de 27. Première chose. Et la seconde, c'est qu'il y a un refus de leur part, un refus catégorique de renoncer à leurs droits sur la propriété intellectuelle. Ils ne veulent pas, entre guillemets, lâcher leurs brevets, alors que cela pourrait permettre une production accélérée dans d'autres pays du monde. Et donc, ça pourrait faire face à cette menace terrible qui pèse encore sur tant de milliers et des milliers de personnes dans ces pays moins favorisés.
Voilà, Cécile Coudriou, présidente d'Amnesty International en France. Et cette interview est bien sûr à retrouver sur notre site internet. Elle fait 7 millions de morts chaque année, la pollution de l'air. Pour la première fois, l'OMS met à jour ses lignes directrices mondiales sur la qualité de l'air. Les limites seront maintenant plus contraignantes pour les principaux polluants comme le dioxyde d'azote ou le monoxyde de carbone. Mais les limites fixées par l'OMS n'ont pas de valeur juridique. Elles fournissent cependant un cadre aux États pour fixer leurs propres taux. En Birmanie, les combats continuent après le coup d'État du 1er février dernier, notamment dans l'ouest du pays, entre l'armée et les opposants à la junte militaire. Des maisons de civils ont été bombardées, rapportent des médias locaux, et des millions de personnes ont pris la route pour fuir ces violences. La coulée de lave irrépressible du volcan Cumbre Vieja sur l'île de La Palma aux Canaries. Depuis ce dimanche, le volcan est en éruption. Il n'y a pas de victimes humaines, mais les dégâts matériels sont très importants. Plus de 300 bâtiments sont partis en fumée. Et surtout, on redoute lorsque la lave arrivera dans l'océan, car cela pourrait dégager des gaz toxiques pour la population. C'est une tradition lors de l'audience générale qui suit un voyage apostolique. Le Saint-Père a dressé ce mercredi un bilan de son dernier déplacement qu'il a conduit en Hongrie et en Slovaquie il y a maintenant 10 jours. Un pèlerinage de prière, un pèlerinage aux racines, un pèlerinage d'espérance, a ainsi résumé François. On écoute le compte-rendu d'Adélaïde Patrignani.
De Budapest pour la clôture du Congrès Eucharistique International au sanctuaire marial de Chaštín en Slovaquie, le pape a voulu rappeler l'essentiel. Adorer le Seigneur, prier, faire pénitence, une réponse de guérison d'après François face au consumérisme et aux vapeurs d'une pensée unique. Avec les communautés juives, le Saint-Père a également montré qu'il n'y a pas de prière sans mémoire. Une mémoire qui amène aux racines de la vie chrétienne, remplie de la sève vitale de l'Esprit-Saint. Ce sont elles qui garantissent l'avenir, a redit le pape. Mais attention aux idéologies qui les trahissent et les stérilisent. Enfin, le souverain pontife a parlé de l'espérance suscitée par ce voyage.
Questo anche mi ha dato speranza a vedere tante coppie giovani, tante e tanti bambini.
Cela m'a donné de l'espérance de voir tant de couples jeunes et tant d'enfants, confie François. Un signe lumineux dans l'hiver démographique que connaît l'Europe. D'autres rencontres ont marqué le pape avec les missionnaires de la Charité de Bratislava, la communauté rome de Košice, où l'on vit la fraternité au quotidien. L'avenir sera porteur d'espérance si nous sommes ensemble, a souligné le successeur de Pierre. Et de conclure par une demande de prière, afin que les graines semées pendant ce voyage portent de bons fruits.
Adélaïde Patrignani. Et en marge de l'audience générale de ce matin, le pape François a rencontré une quinzaine de personnes réfugiées d'Afghanistan. Elles lui ont fait part de leur calvaire au moment de quitter Kaboul par l'aéroport. Ces familles qui ont maintenant trouvé refuge près de Bergame, dans le nord de l'Italie. Dans le reste de l'actualité religieuse, cet appel des chefs religieux britanniques en amont de la COP26, plus de 50 prélats ont signé une déclaration commune exhortant les responsables politiques à faire avancer l'accord de Paris. La 26e conférence des Nations Unies sur le changement climatique se tiendra à Glasgow du 1er au 12 novembre. L'Europe de la défense est-elle une chimère? L'actualité diplomatique récente, que cela soit la chute de Kaboul aux mains du régime des talibans ou la rupture du contrat de sous-marin au détriment de la France, allant à relancer le sujet de l'Europe de la défense. Face aux deux superpuissances que sont les États-Unis et la Chine, l'Europe peine à trouver sa place. On écoute ce soir les explications d'Arnaud Dorjan, député européen, spécialiste des questions de défense.
C'est un constat que l'on fait depuis plusieurs années. À chaque fois, on a, pardonnez-moi l'expression anglaise, mais on a un wake-up call. Ça a été le cas avec l'Ukraine, ça a été le cas avec la Syrie, c'est le cas avec Kaboul, bien sûr. Ça a été le cas avec beaucoup de sorties intempestives de Trump. Et puis, à chaque fois, les Européens, en ordre dispersé, redécouvrent qu'il serait quand même utile d'avoir une approche un peu plus commune pour faire face aux imprévisibilités des crises internationales. Et on a du mal à avancer parce que je pense que il faut être parfaitement conscient que l'Europe, c'est 27 États avec des préoccupations et des priorités très différentes dès lors qu'on parle de politique internationale et des capacités d'appréhender cette actualité internationale très différentes. Vous ne pouvez pas demander à un pays comme la Lituanie, naturellement obsédée par ce qui se passe immédiatement à l'est de chez elle, d'avoir exactement la même perception de l'ordre international que le Portugal, que la France ou que la Grèce. Donc voilà l'hétérogénéité européenne qui peut se révéler un handicap.
Et alors justement, on parle souvent de l'Europe de la défense, est devenue un serpent de mer, c'est même devenu un slogan d'une certaine manière. C'est un slogan vide selon vous ou c'est beaucoup d'incantations?
Il y a une disproportion entre effectivement les ambitions et l'incantation et ce qui se réalise effectivement et ce qu'on est en mesure de faire. On part pas de zéro, il faut pas tout jeter. L'Europe de la défense s'incarne aujourd'hui d'ailleurs dans des missions, des opérations qui sont conduites en Afrique, dans les Balkans, un petit peu au Moyen-Orient et qui sont des missions et opérations qui marchent plutôt bien. Je vais régulièrement sur ces théâtres d'opérations voir des soldats européens de beaucoup de nationalités qui font un travail très professionnel et remarquable sous la bannière de l'Union européenne. C'est le cas en Somalie, c'est le cas au Mali, en Centrafrique. Bon. Simplement, effectivement, ce sont des missions et des opérations de très basse intensité et nous avons du mal à franchir une étape. C'est-à-dire, dès lors qu'une réponse un peu plus robuste serait demandée, comme ça a été le cas, par exemple, à Kaboul, on voit bien que là, on peine à fédérer les énergies européennes. Ça tient à une raison assez simple, à vrai dire, très, très difficile à résoudre, mais la raison est assez simple. C'est que nos systèmes de décision politico-militaires en Europe sont très hétérogènes.
Quelles sont aujourd'hui les capacités réelles sur le terrain des forces européennes?
On progresse aussi. On part pas totalement de zéro. Il y a des programmes qui se font en coopération. Il y a aujourd'hui une nouveauté qui est de l'argent européen collectif qui peut être mis dans la recherche en matière de défense. 8 milliards pour les 7 prochaines années. C'est un un début, c'est un début encourageant, mais il ne faut pas non plus croire que ça va nous permettre de jouer dans la cour des grands. Ça se heurte à des réalités, des proportions qui sont démesurées aux États-Unis, en Chine ou même en Russie, ou même par rapport à certains États-nations comme la France qui dépense 40 milliards d'euros de budget de défense par an. Mais il y a des bases.
Voilà, interrogé par Olivier Bonnel, l'eurodéputé Arnaud Danjean était ce soir notre invité. Je vous souhaite une très bonne soirée à toutes et à tous.